Certaines personnes pratiquent du sport, meurent vite, alors que d'autres ne pratiquent pas du sport, mais vivent longtemps.
C'est parce qu'ils ont un organisme qui s'adapte plus facilement à toutes les activités et qui n'a pas besoin d'être forcément aidé par autre chose. Mais il y a ceux qui font du sport aussi. Entre ceux-là, c'est le contrôle quotidien, hein, c'est le contrôle sans arrêt. Parce que s'ils ne le font pas, évidemment, tout d'un coup, ils se rendront. Parce qu'on a vu des sportifs sur le terrain s'effondrer. Parce qu'on n'a jamais, en amont, fait attention à leur organisme. Donc, le fait de faire du sport, dans un sens, peut-être que ça prolongerait la vie, mais dans l'autre, il faut faire attention.
Donc, suivant les cas, le sport peut ou ne pas jouer sur l'espérance de vie des gens?
Dans le sens où ça prolongerait la vie, je dirais simplement pour nos parents qui sont dans les campagnes. Vous savez, il y a longtemps, les gens ils mouraient simplement parce que on dit qu'ils ont la maladie ou ils avaient du mal à uriner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la prostate et ça, chez tous les hommes, ça existe. Maintenant, si on sait que ça existe et que voilà, par le fait de faire des activités, évidemment, on court moins de risques à faire en sorte que la prostate, là, se développe très vite. Donc, il y a des choses qu'il faut maintenant arriver à faire comprendre aux gens qui sont aussi dans la campagne, que voilà, il y a des choses qui peuvent améliorer leur vie et prolonger la vie.
Les personnes qui souffrent, par exemple, des maladies cardiaques, est-ce qu'elles peuvent s'adonner sans danger à une activité physique régulière?
Non. Il y a toujours un danger. Mais les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, d'abord, elles doivent être sous contrôle médical. Et c'est à partir de médecins qui diront, bon, voilà, tel sport, c'est mieux de le faire, ça comporte moins de risques, mais ça améliore également la santé. Mais on ne fait pas n'importe quel sport. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, il ne va pas se mettre tout de suite à faire un sport où il faut qu'il aille très vite, et il faut qu'il mette à rude épreuve son cœur. C'est une question d'adaptation. Ça, c'est les médecins qui les contrôlent, ça.
Les personnes âgées, quelles sont les activités sportives ou les activités physiques qui peuvent leur être recommandées?
Beaucoup plus de marche. Les personnes âgées, aujourd'hui, avec l'urbanisme, maintenant les gens marchent peu et plus on grandit, plus on est âgé, plus on prend un peu aussi du poids. Et si on ne fait pas d'activité pour éliminer tout ça, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas attention à son sommeil, tout ça, évidemment, c'est assez compliqué. Mais je crois que tout médecin conseillera à l'avance, il faut marcher.
En rapport avec la marche, on a un auditeur qui s'appelle Daniel Lass, il est de la RDC. Il pose la question suivante. Si j'évite l'obésité et que je marche une distance de 12 km 3 fois par semaine, est-ce que cela peut être la solution ou cet exercice pourrait encore avoir de répercussions sur ma santé?
Déjà, marcher 3 fois par semaine, c'est déjà très bien. Maintenant, ce n'est pas seulement marcher qui suffit. Il y a marcher, mais il y a également la régulation de ce qu'on mange. Parce que ça ne sert à rien si on doit marcher 12 km. Et puis après, une fois au repos, on se goinfre et puis on mange des McDo. Donc c'est une question de surveillance de son alimentation et de l'activité. On fait l'activité parce qu'on veut perdre des kilos, mais si une fois qu'on a fini l'activité, on doit aller se charger, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut lier l'alimentation avec l'activité qu'on fait.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
On a un autre auditeur, Alphonse Mbouaki, toujours de la RDC, qui veut savoir si les exercices corporels peuvent éloigner la vieillesse précoce.
Ah, la vieillesse précoce. Oh, tout le monde a peur de vieillir.
Eh oui.
Mais bon, déjà, le fait d'être régulièrement en activité, c'est un plus. Hein. On est à l'abri de pas mal de maladies, on est à l'abri de pas mal de maux de ceci, de maux de cela. Quelqu'un qui fait régulièrement d'activité, il dort bien et puis en plus, il mange bien. S'il n'a pas de maladie, s'il n'a pas de problème de santé, évidemment, sauf accident de circulation. Autrement dit, il n'y a pas de raison que la vie ne se prolonge pas.
Et les enfants peuvent-ils aussi faire du sport ou doivent-ils faire aussi du sport?
Les enfants, c'est d'abord le jeu. Les enfants jouent. C'est beaucoup plus sous forme ludique qu'il faut intéresser les gens à toutes les activités. Il faut qu'ils touchent un peu à tout. Ils sortent, ils courent. Au niveau des enfants, on n'est pas dans la recherche de la compétition. On est dans la recherche de jeu. Ça permet un meilleur développement. Et puis ensuite, le fait de jouer avec les uns et les autres, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine personnalité. C'est bon si on peut les amener à le faire régulièrement. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça dépend de leur âge. Ça dépend de pas mal de choses, mais on fait attention. Mais déjà, à l'école, ils doivent le faire, le sport.
Pour un sport de maintien, juste pour maintenir l'organisme, quelle est la meilleure activité physique? Est-ce que c'est celle que l'on peut pratiquer individuellement ou celle que l'on pratique collectivement ou en groupe?
Bon, il y a des gens qui se mettent en groupe parce que ça les motive, et tant mieux. Si le fait de se mettre en groupe, c'est motivant, ça leur permet de faire. Mais il y a aussi des gens qui, bon, aujourd'hui, j'ai pas un partenaire pour aller courir, mais je vais tout seul, je vais pas m'arrêter. C'est pas parce que j'ai pas de partenaire que je cours plus, mais je me lève et puis je vais courir, je vais marcher, voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours bénéfique. Hein.
Pour terminer notre interview, que peut-on faire pour inspirer les personnes qui ont du mal à bouger ou qui hésitent à faire de l'activité physique?
Malheureusement, mais il faut leur faire peur un peu. Parce que le fait de ne rien faire, il faut arriver à les convaincre du bienfait du sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre que le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange simplement, qui prend du poids, s'il ne bouge pas, évidemment, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, ça devient plus compliqué au niveau du cœur. Donc, il est exposé. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité a beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
Merci beaucoup, M. Bengali, d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre entretien avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges, en France.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec Léon.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous mettons en lumière le lupus, une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire du corps attaque les tissus sains. Pourquoi les symptômes du lupus sont particulièrement graves chez les personnes d'origine africaine et que faire durant une crise? Nous aurons les explications d'un expert. Nous aurons également des conseils pour réduire l'inflammation chronique qui peut mener à diverses maladies. En outre, une salle de sport exclusivement féminine à Yaoundé aide les femmes à gagner en confiance et à se sentir plus en sécurité. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Le lupus érythémateux systémique, le LES, ou lupus érythémateux disséminé, le LED, est une maladie auto-immune chronique qui pousse le corps à attaquer ses propres tissus et organes. La maladie peut toucher toutes les régions du corps humain. On estime que 5 millions de personnes à travers le monde ont une forme de lupus. Les experts médicaux indiquent que les patients d'origine africaine présentent les formes les plus agressives de la maladie. Néanmoins, le lupus reste largement incompris et sous-diagnostiqué dans de nombreux pays africains. Vicky Strack a ce reportage depuis le Cap en Afrique du Sud. Le récit est signé Nanit Talani.
Mariam Terras, 57 ans, a été diagnostiquée avec un lupus cérébral il y a 18 ans. Cette maladie auto-immune chronique survient lorsque le système immunitaire, au lieu de protéger l'organisme, attaque ses propres tissus sains. Cette maladie affecte les articulations, la peau, les vaisseaux sanguins et les organes et, dans certains cas, elle peut mettre la vie en danger.
Mes symptômes étaient des trous de mémoire, des problèmes de concentration, un comportement psychotique, une perte de poids. Et je n'ai jamais présenté les symptômes habituels du lupus, comme l'éruption papillon sur le visage ou les affres.
Malheureusement, cette mère de deux enfants a dû quitter son emploi à cause de la maladie. Cependant, elle a utilisé ses talents d'organisatrice pour mettre en place un groupe de soutien pour les personnes atteintes de lupus. Selon Mme Stéras, le lien avec le groupe fait une énorme différence.
À un moment donné, on peut avoir l'impression d'être au sommet du monde. Vous avez l'impression de pouvoir escalader une montagne et la minute d'après, vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez littéralement plus rien faire.
Le professeur Riette Dutoit dirige le service de rhumatologie de l'hôpital Tygerberg au Cap. Elle explique que la cause exacte du lupus est encore inconnue.
Ce n'est pas quelque chose que l'on a pu identifier avec un seul gène et dire que c'est cela et que c'est pour cela que c'est héréditaire. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent un rôle.
Le professeur Dutoit ajoute que si les statistiques pour l'Afrique sont rares, il existe des preuves médicales montrant que les jeunes femmes noires et métisses sont les plus susceptibles de contracter la forme agressive de la maladie.
Ce que nous savons, c'est que sur le continent africain, la maladie est probablement au moins 10 fois plus fréquente qu'en Europe. Et nous parlons d'une prévalence groupée, c'est-à-dire en regroupant toutes ces différentes études de prévalence de 1,7 à 2 % de la population, alors qu'en Europe, elle est inférieure à 1 %.
Le professeur Dutoit explique que le traitement dans d'autres régions d'Afrique peut être difficile parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'accès aux soins de santé, mais aussi de la disponibilité de l'expertise dans les hôpitaux.
Si l'on considère la chloroquine, la plupart des pays y ont accès. Les corticostéroïdes, oui, ce sont les traitements plus spécialisés, axés sur l'immunité, qui ne sont peut-être pas disponibles. Mais je pense que la chose la plus importante est si vous ne diagnostiquez pas la maladie et ne reconnaissez pas les complications.
Le professeur Dutoit estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser la population. Mais les efforts déployés par la Ligue africaine, des associations de rhumatologie et d'autres pour éduquer les professionnels de la santé constitue un pas dans la bonne direction.
Que savez-vous du lupus et que pensez-vous qui pourrait être fait pour soutenir les patients?
Le lupus, tel que je le comprends, est lié au système immunitaire de chaque individu, mais il n'est pas facile de dire qu'il est contagieux. Donc, d'après mon point de vue, je n'ai pas lu cela quelque part, mais je pense qu'il s'agit d'une maladie non transmissible. Le problème vient des systèmes immunitaires humains qui ont connu certaines carences en minéraux ou en vitamines. Le traitement est problématique, surtout lorsqu'il s'agit du système immunitaire et des cellules, et c'est souvent difficile. Et je n'ai pas encore beaucoup lu sur cette maladie, donc je ne sais pas s'il est possible d'aller à l'hôpital et de recevoir un traitement rapide. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour en guérir.
Le lupus est une maladie qui attaque le système immunitaire, les tissus ainsi que les organes. Beaucoup de gens peuvent confondre le lupus avec le cancer parce que ses symptômes peuvent être identiques. Par exemple, la perte de cheveux. Non, le lupus n'est pas contagieux car la maladie attaque le système immunitaire d'une personne. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une éducation appropriée pour informer la communauté sur la façon dont cette maladie affecte le corps et quelles méthodes devraient être utilisées pour aider quelqu'un qui en souffre.
Il faut d'abord aller à l'hôpital pour voir un dermatologue afin qu'il puisse poser un diagnostic, car au niveau où nous en sommes, seul un spécialiste de la santé de la peau peut identifier le problème. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin pour un diagnostic et des conseils supplémentaires. Et si le médecin estime que cela dépasse ses compétences, il vous orientera vers un autre professionnel de la santé.
Le lupus, selon moi, est une maladie génétique héréditaire qui attaque le système immunitaire, mais elle apparaît aussi dans le corps avec de nombreux symptômes, y compris des dommages cutanés. Cela est souvent lié à des facteurs génétiques.
Le docteur Issa Sharifa Moussa est médecin au Centre médical fédéral Kefi du Nigeria. Elle nous parle de l'impact du lupus sur les patients en Afrique et explique comment se fait la prise en charge dans les pays africains.
Le lupus, également connu sous le nom de lupus érythémateux systématique, est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque ses propres tissus. Cette maladie affecte principalement la peau, les articulations, les reins et le cerveau. En Afrique, le lupus n'est pas fréquent, mais en Afrique subsaharienne, la prévalence est d'environ 1,7% selon une étude menée auprès de 28 000 personnes. Il peut toucher les hommes, mais en Afrique, il affecte principalement les femmes, surtout celles en âge de procréer. Chez les femmes, il peut également entraîner de fausses couches récurrentes, en particulier chez les jeunes femmes. Il existe un gène appelé apolipoprotéine 1, présent chez les Africains, qui est associé à la néphrite lupique et au stade avancé de la maladie rénale lupique, pouvant entraîner une mortalité précoce chez ces patients. Par ailleurs, des facteurs environnementaux comme les agents infectieux, comme le virus d'Epstein-Barr et les polluants contribuent également au développement
développement du lupus. Enfin, le faible statut socio-économique fréquent en Afrique limite l'accès aux soins de santé, ce qui empêche une gestion adéquate de la maladie et peut ainsi accélérer sa progression. Pour aider à prévenir les poussées, nous conseillons aux patients de limiter leur exposition au soleil en portant des vêtements couvrants, en utilisant des parapluies ou des écrans solaires. Nous leur recommandons également d'éviter tout type de stress, qu'il soit physique ou émotionnel, car cela peut déclencher une poussée de la maladie. Pour le traitement, nous prescrivons des médicaments comme les stéroïdes qui réduisent la fréquence des poussées, ainsi que des médicaments tels que l'azathioprine et l'hydroxychloroquine, utilisés également contre le paludisme. D'autres médicaments comme la cyclosporine et le mucophénolate, mofétil, peuvent également être utilisés. Cependant, en raison des coûts élevés, nous utilisons principalement des stéroïdes et l'hydroxychloroquine. L'un des principaux défis est d'obtenir un diagnostic précoce en raison de l'accessibilité limitée aux soins. De nombreux patients ne sont même pas diagnostiqués. Un autre problème est le manque de financement, car il s'agit d'une maladie relativement rare. Cela signifie qu'il y a peu de recherche et de volonté gouvernementale d'investir dans ce type de maladie. Par conséquent, les patients sont souvent laissés à eux-mêmes pour financer leur traitement, ce qui, dans un contexte de ressources limitées, représente un défi majeur.
L'inflammation est une réponse immunitaire naturelle de notre corps pour faire face à une agression. Mais lorsque celle-ci est persistante, elle peut en effet entraîner de nombreuses pathologies plus ou moins préoccupantes comme l'asthme, le diabète ou encore des maladies cardiovasculaires. Pour réduire l'inflammation et augmenter votre énergie, les spécialistes de la santé préconisent notamment d'améliorer votre hygiène de vie. Une activité physique régulière, une alimentation saine comprenant des aliments riches en antioxydants et en acides gras oméga 3 comme les légumes verts, les poissons tels que le saumon, les noix. Évitez les aliments transformés, les sucres raffinés et les graisses saturées en excès. Une bonne hydratation ou encore un sommeil de qualité sont également essentiels pour le bon fonctionnement du système immunitaire et contribuent à diminuer l'inflammation. Enfin, limitez la consommation d'alcool et évitez de fumer, car ces deux facteurs augmentent les marqueurs inflammatoires. Une salle de sport exclusivement féminine au Cameroun offre un espace sûr pour que les femmes puissent apprendre des techniques de défense et se renforcer face à toute forme de violence. Anne Zouanke s'est rendue dans cette salle à Yaoundé et nous présente ce reportage.
Dans cette salle de sport de Yaoundé, des femmes s'entraînent pour apprendre à se défendre. Elles sont inscrites à un art martial axé sur les tactiques d'autodéfense dans des situations réelles. Le CRAV, MAGA Women Protect, créé en mai. Ce club de la capitale camerounaise dédié aux arts martiaux compte une trentaine de membres et la plupart des femmes qui le fréquentent ont été victimes de violences. Sarah Peeble est l'une d'entre elles et a elle-même survécu à une attaque.
En fait, j'ai été agressée quand je rentrais du travail. C'était une agression particulière parce qu'elle m'a traumatisée. On a tout pris, argent, téléphone, bijoux. Et ce jour, comme il pleuvait, j'ai dû rentrer à la maison sous la pluie. Après ça, on m'avait parlé de la self-défense, comment apprendre à se défendre ou alors anticiper une éventuelle agression.
Certains membres disent qu'avant l'ouverture du club, ils ne savaient pas comment se protéger d'éventuelles agressions. Tandis que d'autres disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise de faire de l'exercice dans un environnement mixte où les hommes s'entraînent. Le club KMWP a été créé par Alain Flavier Yambe. Il explique pourquoi il a lancé des cours réservés aux femmes.
Donc pour les femmes, par exemple, qui sont souvent faites violenter, c'est souvent parfois traumatisant de revivre certains aspects de leur agression en salle, et surtout si elles sont en cours avec les hommes. Donc nous avons donc créé donc cette option femme où elles peuvent tout se dire entre elles parce qu'elles se sentent en sécurité entre elles. Mais l'objectif n'est pas de rester juste entre femmes, mais c'est de rejoindre également les cours mixtes.
Olga Etundi, instructrice d'autodéfense à la salle de sport, présente des techniques spécifiques pour chaque type d'attaque ainsi que les critères inhérents au choix des techniques.
Nous appartenons à une association qui pratique la self-défense spécifiquement dédiée aux femmes, qui a mis sur point cette technique
Nous avons par exemple la défense contre l'écranglement, que ce soit l'écranglement à deux mains ou à l'écranglement à une main. Donc on apprend aux adhérentes à se défendre contre ces types d'agressions ou alors des gifles.
Selon les experts, la création d'un club exclusivement féminin est une bonne initiative qui renforce la confiance des femmes, en particulier celles qui ont été traumatisées par la violence. Serge Dejala-Ipo, instructeur de l'armée, est l'un de ses experts en autodéfense. Il souligne que les femmes peuvent également s'entraîner aux côtés des hommes afin de développer les bons réflexes pour tout type de situation.
Je pense que ils devraient, dans leur programme, de temps en temps, à faire intervenir des hommes. Oui, je pense qu'ils devraient, et ils gagneraient beaucoup plus à le faire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les femmes, il ne faudrait pas qu'elles s'habituent totalement aux femmes, mais en se mettant en contact avec les hommes, elles pourront palper la réalité dans la rue. Elles ne feront jamais le choix entre une femme et un homme.
La violence contre les femmes est la violation des droits de l'homme la plus répandue dans le monde, selon l'ONU. Ces femmes camerounaises espèrent changer cela en apprenant à se défendre contre la violence, une tactique d'art martial à la fois.
C'est ici que s'achève le magazine Votre Santé, Votre Avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire s'articulait autour de l'importance de l'activité physique sur la santé. Nous nous sommes entretenus avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par la Norme Bou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierry. Devant ce microphone, Nanit Salani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé. Car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions et vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
There's a party in Africa. There's a party in Africa. There's a party in Africa.
Afrique en direct de Washington.
Ok les gars, José, c'est un des gamins en famille avec Yoro. Ariel s'est mis à faire le son. On est ensemble.